Vous allez bien? Bon, il n'y a pas beaucoup de réponses. J'ai l'impression que vous n'allez pas très bien. Et même si vous n'allez pas très bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, et vous allez rencontrer la bonne personne. Voilà. La semaine dernière, je rentrais du travail comme d'habitude. J'étais dans le métro. Et pendant que notre métro entrait en gare, j'ai été attiré par quelque chose, par une scène. C'était une jeune fille. Vous allez me dire, et pasteur, mais c'est bizarre. Vous regardez jeune fille dans le métro, c'est pas correct. Mais ce qui m'a marqué dans ce que j'ai vu, c'est que cette fille avait un visage baigné par les larmes. Elle était sur le quai, les yeux hagards. Qu'est-ce qu'elle avait? Je n'en sais strictement rien. Le métro s'est arrêté, les portes se sont ouvertes. Elle est rentrée dans le métro de manière machinale et elle a continué à pleurer. J'étais à quelques mètres d'elle. Je commençais à sortir mon mouchoir. Je l'ai cherché et je voulais le lui donner. Mais il y a une chose qui m'a surpris. C'est lorsque je regardais ceux qui l'entouraient, ils étaient tous indifférents. Et j'avais même l'impression qu'ils voulaient éviter son regard. Cette fille pleurait. Elle n'avait égard. En tout cas, toutes les convenances, elle les avait balayées. Généralement, on ne pleure pas en public. Mais elle était tellement choquée, tellement affectée, qu'elle pouvait pleurer même peut-être sans s'en rendre compte. À un moment donné, elle a pris le mouchoir, elle s'est essuyé le visage. Cette scène était terrible. Et dans mon cœur, je me disais, elle doit être au bout du rouleau. Elle était au bout du rouleau. Elle était dans une grande souffrance. Elle était dans une grande solitude, seule au milieu d'une foule. Il n'y a rien de plus terrible que cela. Et peut-être que toi qui es dans ce lieu ce matin, alors que nous sommes, tu es entouré de nombreuses personnes, tu es peut-être aussi seul. Seul au milieu d'une foule. Seul dans la grande solitude. Seul dans la grande souffrance. Que faut-il faire lorsqu'on est au bout du rouleau? Que faire quand tu es au bout du rouleau? Je demandais tout à l'heure, est-ce que ça va bien? Je ne sais pas si le silence était un témoignage du fait que beaucoup n'allaient pas bien ou tout simplement parce qu'ils étaient distraits. Mais si c'est parce que tu n'allais pas bien, comme je le disais dans mon propos d'introduction, si tu ne vas pas bien, aujourd'hui, la parole de Dieu veut te dire ce que tu dois faire lorsque tu es au bout du rouleau. Alors mon titre, le titre de mon message ce matin, c'est Que faire quand tu es au bout du rouleau? Et pour ce faire, et pour cela, donc, nous allons étudier un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30, et nous lirons d'abord les six premiers versets. Mais j'aimerais tracer rapidement le contexte du texte que nous allons lire. L'histoire est relative à une certaine personne appelée David. Ce n'est pas notre David Falaise, ni notre David Porter. Mais c'était un David. David qui était roi. Mais avant qu'il ne soit roi, c'était un jeune berger. Un jeune berger qui s'occupait donc de ses brebis. Et pendant qu'il était berger, il a été choisi par Dieu pour être roi. Il a même été oint roi. Et c'était un roi sans trône. C'était bizarre. Et il est resté longtemps dans la situation de roi sans trône. Parce qu'avant lui, il y avait un autre roi, Saül. Mais qui a été désavoué par l'Éternel? Et ce roi ne voulait pas quitter son siège. Et je le comprends. Quand on a une bonne position, on ne veut jamais la laisser. Mais pour David, c'était quelque chose de terrible. Parce que ce roi le prenait pour un rival qu'il fallait à tout prix exterminer. David était poursuivi, je peux dire jour et nuit, continuellement par Saül. Au point où, à un moment donné, il a craqué. Il a craqué, il a fui et est allé dans le pays des Philistins. Et quand on sait que les Philistins étaient un peuple, le peuple qui était l'ennemi de Dieu, on sent à quel point ce garçon avait craqué. Et non seulement il avait craqué, mais il va faire une chose terrible. Il va même s'allier à l'ennemi pour aller combattre son royaume. Là, il était vraiment touché. Dans la tête, ça n'allait plus. Il était même devenu l'ami du roi qui avait toute sa confiance en lui. Au point de l'appeler comme secours pour aller combattre le pays d'Israël, le pays du roi David. Heureusement que Dieu sait faire les choses. Il a fait que ce roi soit rejeté et qu'il n'aille pas combattre contre son propre peuple. David était tellement bien installé dans le pays des Philistins au point où il s'est même fait un quartier. Il s'est fait un quartier et il avait des gens qui le soutenaient. Il avait même une armée. Je ne sais pas si c'était une bande, mais il avait une armée constituée de 600 personnes. Mais ce jour-là, ce qui devait arriver arriva. Quand il rentrait viré par les Philistins, lui interdisant d'aller à la guerre contre le pays d'Israël, il arrive chez lui et il trouve une situation de désolation. Le texte que nous allons lire est la suite de ce que je viens de dire. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tziklag, il la trouva ravagée. Tziklag, c'était la ville, c'était son quartier général. Il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Negev et contre Tziklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué sur le chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils, leurs filles avaient été emmenées captives. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les deux femmes de David, Ahinoam de Jizréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, était parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as voulu que ces choses soient écrites pour notre instruction. Enseigne-nous toi-même ce que tu veux nous dire au travers de ce texte. Je te demande cela dans le précieux nom de Jésus. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin qu'il soit une terre où ta parole produise des fruits. Merci, Seigneur, parce que tu feras cette œuvre. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. David était dans une situation difficile, terrible. Il était au bout du rouleau. Lorsque nous lisons ce texte, en quelques mots, nous pouvons voir ce qui causait sa souffrance, ce qui causait sa douleur, ce qui causait son angoisse. D'abord, nous voyons qu'il a perdu tous ses biens. La parole de Dieu nous dit la ville était ravagée et incendiée. Il avait perdu au niveau familial. La parole de Dieu nous dit les ennemis s'étaient emparés des femmes et lui, il en avait jusqu'à deux, en tout cas à l'époque. Il paraît qu'il en a eu plus que ça après. Mais il en avait deux. Et si les aimer, ça fait deux fois plus de douleur. Je ne sais pas si à l'époque il avait des enfants, mais la parole de Dieu nous dit que tous les enfants, garçons et filles, ont été emportés. Il a eu une perte aussi au niveau des amis. Vers la fin de ce texte, on disait ses amis, ses compagnons voulaient le liquider, le lapider. Parce qu'ils lui en voulaient, ils avaient perdu leur enfant, leur femme, à cause de David, qui avait pris l'initiative de les amener combattre, et donc de baisser la garde au niveau de Tsiklag. Ses amis n'étaient plus ses amis, ses amis étaient ses ennemis, donc une hostilité. David vivait dans ce moment dans un climat d'austérité terrible. Je n'aurais pas voulu une seule seconde être à sa place. Et qu'est-ce que ça produit dans son cœur? Ça produit de l'amertume. Ça produit une grande souffrance exprimée par les pleurs. La parole de Dieu dit qu'ils ont pleuré jusqu'à épuisement. Il était épuisé, comme cette jeune fille du métro dont je vous parlais tout à l'heure. Il était seul. Parce que tout le monde dans la ville était contre lui. Mais il avait 600 guerriers contre lui. Il n'aurait pas fait le poids. Ah, je comprends son angoisse. Je comprends son angoisse. Vous voyez, quand dans la rue, en tout cas pour nos jeunes sœurs qui prennent parfois le métro le soir, quand le métro est vide, je pense qu'elles ont les chocottes. Elles tremblent. Moi aussi, je tremble d'ailleurs. Quand je vois des balaises, je dis, bon, même avec la force que j'ai, je pense que je ne tiendrai pas le coup. Et finalement, ça peut provoquer des angoisses. Nous aussi, dans notre vie, on a des choses qui peuvent provoquer des angoisses. Des choses qui peuvent provoquer des angoisses et qui nous viennent de l'ennemi. On a bien identifié ceux qui ont fait ce mal, c'était des Amalécites qui étaient des ennemis d'Israël, les frères ennemis d'Israël. C'est eux qui ont détruit, c'est eux qui ont porté la désolation dans le camp d'Israël, dans le camp de Tsiklag. David avait, comme je disais tout à l'heure, des bonnes raisons d'être angoissé, des bonnes raisons de pleurer, des bonnes raisons de dire « tout est fini pour moi ». Mais est-ce qu'il s'est résigné? Non. Pourquoi ne s'est-il pas résigné? D'où a-t-il trouvé la force de se relever? La parole de Dieu nous dit, et ce sera un des points pour dire comment nous devons réagir lorsque nous sommes au bout du rouleau. Comment réagir lorsque nous sommes au bout du rouleau? Mais avant d'aborder ce point, permettez-moi un peu d'insister sur vous, sur toi. Précisément, quelle est ta situation dans ce lieu ce matin? Es-tu un jeune homme? Parce que je sais que ça arrive. Qui a été conduit après avoir demandé la main à une jeune fille? Les choses l'ont blessé à ce point. Qui n'arrive plus à se relever? Ça arrive, les amis. Je sais que lorsque j'étais jeune, j'ai dû prendre des valises comme ça. Et quand on en prend, on s'en souvient. On s'en souvient, moi je m'en souviens encore vraiment de certaines choses qui ont causé de la douleur à mon cœur sur le point sentimental. Et dans les familles, et plus particulièrement dans les couples, il y a le diable qui sévit parfois. En créant un climat de tension dans les couples. Un climat de tension. Il arrive même parfois que dans les couples, rien que le fait d'entendre la voix de son mari ou de sa femme vous irrite, vous hérisse le poil. Alors que vous êtes aimé à un moment donné, vous avez fait un bon parcours ensemble. Mais il arrive des situations comme celle-là et le diable souffle pour activer les choses. Il arrive aussi que nous soyons atteints, en tout cas, nos parents, nos enfants soient atteints par la maladie. Et la parole de Dieu dit, c'est parfois l'œuvre du diable. Je me rappelle de cette femme courbée depuis plusieurs années, 18 ans. Et Jésus disait, c'était l'œuvre du diable qui la courbait. Et peut-être tu es aussi en situation de maladie, en situation de solitude extrême. Peut-être tu es un ado dont les parents ne comprennent rien de ta vie. Et pour toi, c'est une cause de souffrance. J'ai en mémoire ce que j'ai lu il y a quelques jours, un jeune garçon de l'âge à peu près de mon fils, qui écrivait ceci. Il écrivait à ses parents en disant, « Je ne compte pas pour vous, il n'y a que votre travail qui compte, et puisque c'est comme ça, je pense que je vais partir. » Il faisait allusion à un suicide. Voyez, le mal touche toutes les catégories sociales, et ceci nous a été dit dans le texte. L'ennemi est venu ravager toutes les catégories sociales. Oui, les problèmes peuvent être au niveau familial. Les problèmes peuvent aussi être au niveau de vos amis, qui à un moment donné peuvent vous lâcher. Non seulement ils peuvent vous lâcher, mais ils peuvent vous poignarder dans le dos. Qui a subi une trahison qui lui fait peut-être mal encore jusqu'à aujourd'hui et qui n'arrive toujours pas à digérer? Je peux te dire, tu es à la bonne place et tu auras le secours de Dieu. Si tu es donc dans l'amertume, dans la grande souffrance, si tu es dans l'épuisement, la solitude et la grande angoisse, comment réagir? Alors regardons un peu ce que David a fait. La parole de Dieu nous dit au verset 6 et à la fin de ce verset, verset 6 du chapitre 30. Mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Dans la version seconde, il est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Lorsque je lis ce texte, et je l'ai lu dans plusieurs versions, son Dieu est le terme ou l'expression qui a attiré mon attention. David pouvait s'appuyer sur l'Éternel parce qu'il avait une relation particulière avec lui. C'était son Dieu. Sur quoi t'appuies-tu lorsque tu es au bout du rouleau? T'appuies-tu sur tes amis qui, d'un instant à l'autre, peuvent te trahir ou t'abandonner? T'appuies-tu sur ton père, ta mère? T'appuies-tu sur ton argent? Mais ces choses, parfois, n'arrivent pas à résoudre ton problème parce qu'elles ne sont pas puissantes pour aller régler ce qui te fait souffrir. Son Dieu. Ah, si tu avais Dieu pour père, si tu avais Dieu dans ta relation, les choses pourraient certainement changer. Es-tu au bout du rouleau? Es-tu au bout du rouleau? Qui, sur qui t'appuies-tu? Il s'appuya sur ton Dieu, son Dieu. Mais toi, dans la salle, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Peut-être tu es là pour la première fois et tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas comment il peut devenir ton Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il peut le devenir à l'instant même. À l'instant même. Et comment il peut le devenir? Il peut le devenir tout simplement si tu lui dis, deviens mon père. Et comment on devient le père? Et comment devient-il son père? La parole de Dieu nous dit, il peut le devenir si tu suis le chemin qu'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Donc, tu peux devenir enfant de Dieu en acceptant l'offre gracieuse qu'il te donne. Il dit, je veux devenir ton Dieu à une condition, de m'accepter, d'accepter mon Fils. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, mais de Dieu. Donc, tu peux être enfant de Dieu. Tu peux avoir une relation particulière avec Dieu. Et lorsque tu auras une relation particulière avec Dieu, tu peux faire ce que David a fait dans cette circonstance. Il puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. David, comment connaît-il Dieu? David a eu une expérience avec Dieu. Il a une expérience depuis son enfance avec Dieu. Il a vu l'Éternel le délivrer de la griffe du lion et de la patte de l'ours. En quelles circonstances? C'était un berger. Et à l'époque, ce jeune homme était dans la forêt où il pouvait être attaqué par ces grands animaux. Je pense qu'il n'aurait pas fait le choix. Et il n'aurait pas fait le poids devant ces animaux. Mais il a certainement dû invoquer l'Éternel. Au point de dire, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il a encore fait une expérience, il en a fait plusieurs, mais je cite celle-ci. Contre Goliath, il a expérimenté qu'en combattant au nom de l'Éternel, il pouvait faire des exploits. Il dit à un moment donné, la victoire appartient à l'Éternel. Il savait que ce n'était pas lui qui avait gagné, mais c'était Dieu qui, au travers de lui, avait terrassé le grand terroriste Goliath. Non seulement il pouvait se baser sur sa propre expérience, mais il pouvait aussi se baser sur l'histoire ou le témoignage des autres personnes. D'ailleurs, il avait son contemporain Samuel, qui, après avoir vu Dieu accompagner le peuple de son peuple, peut dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il pouvait entendre, il avait entendu certainement le témoignage de Josué, parce que dans le peuple de Dieu, il était question d'apprendre aux enfants ce que Dieu avait fait pour son peuple. Donc il a certainement entendu l'histoire de Josué. L'histoire de Josué qui, à la fin de sa vie, on sait que lorsqu'on est à la fin de sa vie, on essaye d'être vrai, donne ce témoignage. Qui dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Il avait certainement aussi entendu Abraham. Oui, cet homme qui, âgé, incapable de procréer naturellement, parce qu'il était vieux, sa femme était vieille. Mais le Seigneur lui a donné une promesse. Et la parole de Dieu nous dit, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Ah, ça a son importance. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. David, de par son expérience personnelle, David, de par le témoignage des autres au sujet de Dieu, qui démontrait la toute-puissance et la fidélité de Dieu, ne pouvait que s'appuyer sur Dieu. Connais-tu Dieu? Si tu le connais, tu peux t'appuyer sur lui, dans ta situation difficile, et reprendre courage. David pouvait reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je te demandais tout à l'heure, sur quoi t'appuies-tu? Sur quoi t'appuies-tu lorsque tu es fatigué, lorsque tu es au bout du rouleau? Sur quoi t'appuies-tu? Mais je t'en supplie, au nom de Jésus, confie-toi en celui qui a la toute-puissance, en celui qui a la capacité de faire ce qu'il dit. Donc, être au bout du rouleau, ce n'est pas une fatalité pour Dieu. Ça peut être une fatalité pour toi, mais ce n'est pas une fatalité pour Dieu. Parce que Dieu trouve une issue même dans les voies sans issue. Il construit des autoroutes là où personne ne peut en ériger une. Oui, Dieu, dans ta situation difficile, veut ouvrir les portes qui te sortent de là. David s'appuya sur l'Éternel pour être conseillé. Nous le voyons dans le verset 7 qu'il nous dit, « Il demanda au prêtre Abiathar, fils d'Ahimélec, d'apporter les fautes servant à consulter l'Éternel. Abiathar lui présenta, David interrogea l'Éternel et en lui demandant, « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » Moi, je dis que de douleur et de souffrance David aurait pu s'épargner. Il avait Abiathar à son côté, ce conseiller qui pouvait lui dire les oracles du Seigneur. Il avait d'ailleurs conseillé, il avait d'ailleurs consulté par le passé. Et il a eu des réponses. Mais lorsqu'il était accablé, au lieu de consulter l'Éternel, il a fui en Égypte. Peut-être l'Éternel lui aurait donné une autre solution. Mais là, il est allé en Égypte. Il n'a pas consulté l'Éternel. Et ceci lui a causé un certain nombre de souffrances. Nous aussi aujourd'hui, nous avons un conseiller. La parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit. Ce don qu'il a promis à tous, en aussi grand nombre qu'ils croiront. Il dit à tous, tu n'es pas exclu de la bénédiction, le Seigneur veut te le donner. Il veut te le donner comme conseiller, parce qu'il dit, il te conduira dans toute la vérité. Il t'éclairera sur tous les points de ta vie. Ça prendra parfois peut-être un peu de temps, mais une chose est certaine, il le fera. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Parfois tu peux te dire, mais comment est-ce qu'il va me parler? Il te parlera d'une manière ou d'une autre. La parole de Dieu dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas comment il va te parler. Mais je vais vous dire une chose. Parfois même, alors que je suis détendu devant ma télé, je vois certaines scènes qui rapidement me connectent à d'autres. Et je me posais des problèmes. Je me posais des questions, je veux dire. Et j'y commence à voir un début de réponse. Et je vais regarder dans ma Bible en disant, est-ce que c'est vraiment ce que tu dis? Et quand c'est confirmé? Vous voyez, alors que c'était ce type-là, ce monsieur qui écrivait le scénario, ne pensait pas à moi. Hein. Il ne me connaît pas, il ne me connaissait pas, il ne me connaîtra jamais. Mais Dieu utilise toutes choses. Toutes choses. Ce sera peut-être dans une conversation que tu auras avec ton épouse, ton frère, ta sœur, ton enfant. Ça va faire le tilt. Ou pendant que tu lis ta Bible, c'est comme si le verset sort du texte et te bombarde sur le visage. Oui, ton attention est retenue par cela. Et tu vois que c'est une réponse que Dieu veut te donner. Ceux qui ont fait l'expérience avec Dieu, les expériences avec Dieu, peuvent le confirmer dans cette salle. Oui, il s'appuya sur Dieu pour être conseillé. Et l'Éternel lui répondit. L'Éternel répondit. Ah, ça, c'est une bonne chose. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous répondre? Vous pouvez le crier plus fort, il peut vous répondre. Il peut te répondre. Non seulement il répond, mais j'aime sa réponse. Il dit, parce que David s'était arrêté, est-ce que je peux les rattraper? Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Quand il disait, je vais les rattraper, certainement il disait, je vais les massacrer. Si je les attrape, je vais les massacrer. Mais ce n'était pas là le plan de Dieu. Le plan de Dieu dit, tu les attraperas et tu récupéreras tout ce qu'on t'a pris. Amen. Tu les reprendras, tu reprendras et tu récupéreras tout ce que tu as pris, tout ce que l'on t'a pris. Boosté par le conseil de Dieu, il s'en va. Oh, mais quand tu commences à écouter la parole de Dieu, c'est là où les difficultés arrivent à nouveau. Et c'est ce qui va arriver à David. Il avait 600 soldats, peut-être qu'il considérait déjà que ce n'était pas assez. Mais sur le chemin, un tiers de son effectif le lâche. Il en avait 600, il y a 200 qui partent. Moi, j'aurais regardé les choses en disant, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as vraiment dit de partir? Tu me dis de partir? Et tu m'enlèves ce qui est ma force. Non, le Seigneur voulait que David prenne conscience qu'il est sa seule force. Dieu peut sauver au travers d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça, Dieu le fait. Même au travers d'une personne, comme il l'a fait par David, face à Goliath, face au peuple des Philistins, par une seule personne, il a terrassé le terreau. David, délesté de 200 soldats, continue quand même. Il s'appuya sur l'Éternel, et c'est le troisième point, pour être restauré. Il s'appuya sur l'Éternel pour être restauré. La parole de Dieu dit, David les attaqua, je suis au verset 17 du même chapitre. David les attaqua à l'aube et les battit jusqu'au lendemain. soir. Aucun d'eux ne lui échappa, excepté 400 jeunes qui réussirent à fuir sur des chameaux. Alléluia. David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses hommes. Personne, alléluia, personne ne manqua à l'appel. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. Et David ramena tout. Dieu veut te restaurer. Est-ce que tu le sais? Dieu veut te restaurer. Non seulement il veut te restaurer, mais il veut te donner même en abondance. Il s'empara aussi de tout le gros gibier, le gros et le menu bétail. Il n'y a pas de gibier, hein, le menu. Il s'empara. Dieu veut te bénir. J'espère que tu le sais. La parole de Dieu nous dit, le diable, je le disais tout à l'heure, est venu pour dérober, détruire, égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Si ton angoisse est l'œuvre du diable, alors tu peux commencer à chanter. Alléluia! Parce que Dieu va détruire les œuvres du diable. Dieu va détruire ce qui cause ton angoisse. Tu peux lever les mains vers lui. Je lève les mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pendant que les musiciens arrivent pour chanter, mon frère, si c'est ton cas, ne désespère pas. Moi, je dis, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Alléluia.